Bon, je vous propose de commencer tout de suite, même si je respecte pas le quart d'heure poids de vin, mais c'est normal, je suis un immigré. Et puis comme chacun a éventuellement besoin de se coucher pas trop tard pour réattaquer demain, donc j'aime bien commencer à peu près à l'heure. Je pense que les éventuels retardataires nous comprendront. L'UNAFAM, comme chaque année à cette saison, organise localement la semaine d'info sur la santé mentale. Donc, avec des partenaires locaux, dont l'espace Mendes France, qui nous accueille gratuitement tous les ans. Et puis, depuis l'année dernière également, le cinéma Le Dietrich, qui fait toute sa programmation de cette semaine sur ce sujet de la santé mentale, de sa perception par les cinéastes et de la façon dont c'est traité. Alors c'est un choix qui est fait par l'équipe de programmation du Dietrich dans toute sa liberté de projection cinématographique. J'ai commencé à découvrir ce qui est proposé cette semaine. Je vous assure que ça vaut le déplacement. Donc vous avez des programmes sur la petite table à l'entrée. Vous avez aussi des adhésions pour l'UNAFAM, c'est possible. Vous avez quelques exemplaires de revues et vous avez aussi des petits livrets de présentation de notre association cousine, le Fil d'Ariane, et association aussi associée au Nord du GEM, dont des membres sont dans la salle et peuvent répondre à vos questions aussi. Et il y a, mais peut-être que les gens vous en parleront directement d'ici la fin de cette séance, une porte ouverte qui est organisée jeudi sur Poitiers. Voilà, donc vous nous en reparlerez de manière plus détaillée éventuellement après. Donc la semaine d'info sur la santé mentale, elle est organisée depuis plusieurs dizaines d'années au niveau national par la Fédération française de psychiatrie. Donc les soignants ont participé à l'organisation de cette chose-là. Les associations de proches comme l'UNAFAM, donc l'UNAFAM, je ne l'ai pas dit, Union nationale des amis et familles de malades psychiques, la première association nationale du secteur avec plus de 13 000 adhérents, donc reconnue d'utilité publique depuis plus de 40 ans, etc. etc. Donc, ce qu'on se propose de faire ce soir, c'est de livrer notre interrogation et nos témoignages de famille. Il y a aussi des gens qui souffrent eux-mêmes de ces maladies psychiques dans la salle, donc qui peuvent bien sûr intervenir. Et puis moi, je ne suis pas tombé dans la psychiatrie quand j'étais tout petit. Je n'ai pas fait d'études sur le sujet. Ma compétence, c'est une compétence de proche qui a dû se colter cette réalité-là. Donc je ne prétends pas en savoir plus que les professionnels, je prétends simplement apporter un regard de famille ayant réfléchi sur leur sujet. Donc s'il y a des professionnels ou des apprentis professionnels dans la salle, ils peuvent bien sûr prendre la parole, m'interpeller, apporter la contradiction, c'est le jeu, on est suffisamment peu nombreux ce soir, compte tenu de la redoutable concurrence des élections régionales, du festival Voix Publique et de tout un tas de manifestations sur Poitiers, pour qu'effectivement on ait un score ce soir un peu inférieur à notre moyenne. Mais bon, la qualité compensera certainement la quantité des participants. Donc moi je compte sur vous, c'est pas ce soir une conférence, c'est plutôt un ensemble de réflexions que je souhaitais vous partager. Donc le thème cette année, c'est maladie psychique, en parler sans stigmatiser. Je pense que ce sujet-là est bon parce que effectivement la tendance, je dirais pas naturelle, mais la tendance fréquemment rencontrée, c'est qu'on associe systématiquement maladie psychique avec tout un tas de choses redoutables. Alors, je ne sais pas où vous en êtes de vos infos sur ce que sont les maladies psychiques. Donc, à chaque fois, si vous trouvez que je suis pesant, vous me faites signe d'accélérer un peu. Ou si vous trouvez que ce que je dis n'est pas assez compréhensible, vous m'interrompez pour que je réexplique. de quoi on parle. Donc pour nous, une AFAM, on parle de maladies psychiques parmi les plus invalidantes, c'est-à-dire ce qui tourne autour de, des psychoses, donc des schizophrénies, des maladies bipolaires, des troubles anxieux généralisés, des troubles obsessionnels compulsifs, ou certaines manifestations qui sont proches aussi chez les gens qui ont des traumas crâniens. Voilà un peu les gens avec qui nous sommes en relation, que nous avons dans, dans nos familles ou dans notre entourage proche. Donc, des maladies de la relation, des maladies de l'étrangeté, des maladies qui mettent souvent les interlocuteurs et l'entourage mal à l'aise. Alors, pourquoi parler de tout ça ? Puisque souvent, quand on en parle, les réactions sont plutôt des réactions négatives, sont plutôt des réactions de méfiance, de peur. Il faut en parler parce que ne pas en parler, on a vu ce que ça faisait au cours des décennies passées. C'est-à-dire que les gens souffrant de troubles psychiques ne trouvent pas spontanément leur place dans la société. Ils souffrent, donc je ne sais pas si vous connaissez la classification traditionnelle que tous les apprentis du secteur commencent par découvrir, une maladie qui entraîne des déficiences et qui entraîne des handicaps. Alors, des maladies, je peux mettre des S partout, les maladies sont un peu diverses, c'est celles que j'ai citées au début. Et puis les handicaps, on a aussi commencé à découvrir que le handicap dépendait beaucoup de la façon dont était organisé l'environnement. Il est évident que quelqu'un en fauteuil roulant qui se déplace dans un centre commercial fait pour les caddies est moins gêné que s'il se déplace dans les rues de Poitiers. Donc, la preuve qu'une déficience peut se manifester très différemment selon le handicap dans lequel la personne doit évoluer. Donc, c'est vrai que l'ampleur du handicap dépend pour beaucoup de la façon dont la société est organisée, des services qu'elle donne et des obstacles qu'elle met à une vie normale. C'est particulièrement vrai dans le cadre de la maladie psychique, puisque les gens n'étant pas avertis, n'étant pas informés, n'étant pas formés à la gestion de cette étrangeté, on fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour que les choses se passent avec des handicaps réduits. Pendant les dizaines d'années passées, on a fait ce que disait qu'il fallait faire, notamment le courant psychanalytique assez puissant en France, c'est-à-dire ne pas en parler, parce que si on en parlait, forcément, on stigmatisait. Il n'y avait pas d'autre résultat du fait d'évoquer la question qu'une stigmatisation. Alors, c'est vrai que ça peut fonctionner comme ça dans un certain nombre de cas, et surtout quand les autorités publiques enfourche ce cheval-là. C'est-à-dire qu'effectivement, si on assimile maladie psychique et dangerosité, on n'a pas intérêt à dire qu'on souffre d'un trouble psychique. Si on dit que ce n'est pas ça le centre du problème et que c'est bien autre chose, alors il peut être intéressant d'en parler. Une des conséquences évidentes du fait de ne pas en parler, ça a été le déni de l'existence des handicaps liés à cette famille de maladies, et le retard considérable que notre pays a pris dans la prise en charge concertée des personnes en souffrance psychique. Or, des études anglo-saxonnes montrent que le handicap psychique, en nombre, est le premier des handicaps. Donc, c'est pas une maladie rare, c'est pas une exception. En tant que famille touchée, on a souvent l'impression d'être les seuls au monde à souffrir de ce machin-là. Ça représente un tiers des handicaps reconnus. Donc pourquoi un tel niveau de méconnaissance et pourquoi une telle erreur de visée, pourquoi une telle erreur de mise en œuvre de politique publique ? Donc je peux reciter les chiffres. depuis une dizaine d'années, l'UNAFAM plaide qu'il y a 600 000 personnes souffrant de psychoses invalidantes dans notre pays, donc 1% de la population. Les chiffres qui circulent aujourd'hui disent qu'il faudrait au moins multiplier ce chiffre par deux. Donc 1% de la population, si on passe à 2% de la population, dans la Vienne qui fait 400 000 habitants, ça fait 8 000 personnes. Et si on compte que chaque personne connaît en gros 3 personnes dans sa famille qui lui sont assez proches ou équivalents, on arrive tout de suite à 24 000 personnes dans la Vienne, une paille, quoi. Et il se trouve que c'est encore un trou noir sur la carte des politiques publiques. Hein, donc il y a une bonne loi qui a été votée par le Parlement il y a maintenant 5 ans, le 11 février 2005, loi sur les qualités des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc cette loi permet tout un tas de choses. Elle a permis entre autres la création des GEM et j'ai découvert qu'une circulaire gouvernementale mettait un peu à mal les GEM très récemment, là, fin février. Donc on a une bonne loi avec une bonne problématique qui pose bien le problème de toutes les des successions de handicaps qui découlent de cette maladie psychique. Sauf que si on ne parle pas de handicap, eh ben, on ne bénéficie pas de la loi. Forcément, puisque l'esprit et la lettre de la loi, c'est que toute personne qui souffre de handicap a le droit d'attendre que la société compense son handicap. Forcément, la clé d'entrée, alors on peut s'arrêter un instant là-dessus, hein, parce que c'est facile de l'énoncer là d'une table dans une salle comme ça. Effectivement, reconnaître son handicap, reconnaître que son proche est handicapé, c'est toute une démarche qui demande un temps certain, qui demande beaucoup d'accompagnement et qui demande effectivement qu'on en parle. Donc, on rejoint là le titre de notre semaine, en parler pour arriver à mettre en œuvre ces compensations. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut déjà intervenir à ce niveau-là. On touche quelque chose de dur. Effectivement, si on ne parle pas, si on ne reconnaît pas le handicap, si on dit que c'est la société qui est trop dure pour des gens qui sont un peu tendres et que le remède, c'est uniquement que la société soit moins dure, on ne fait rien de ce qu'il faut pour que les gens souffrant de ces troubles-là puissent accéder à une vie citoyenne normale. Alors, je peux vous donner le plan d'urgence que l'UNAFAM avait énoncé. C'était hier en 2003, ça s'appelait plan d'urgence. C'était un précurseur par rapport à la loi du 11 février 2005. On avait identifié que pour que la personne souffrant de troubles psychiques ait des chances d'avoir une vie relationnelle, équilibrée, d'avoir une vie citoyenne, d'avoir les joies et les peines que tout un chacun vit dans sa vie, il fallait rentrer dans le soin et une continuité du soin. Donc, entrée et continuité. Il fallait, comme pour toute personne, des ressources. Or, la maladie éloignant souvent de l'activité professionnelle, il faut des ressources compensatoires. Alors ça, c'est le thème de demain, l'insertion professionnelle avec Patrick Gentil qui nous fait l'amitié de déjà passer sa première soirée de la semaine avec nous alors que demain, il vient plancher avec nous. Donc une allocation adulte handicapé, des pensions d'invalidité s'il y a eu du travail avant, etc. Il faut un toit, parce que si on n'a pas de toit, c'est le début de la fin. D'accord. Alors, on pourra énoncer les. Je le développerai sur un autre paperboard, peut-être pour pas encombrer mon propos, mais je reviendrai dessus. Donc, il faut un toit, il faut un accompagnement social. Il faut éventuellement une protection juridique parce que quand on est malade de la relation, qu'on a des difficultés à mesurer les enjeux, eh ben on peut par exemple donner sa carte bleue à quelqu'un qu'on trouve sympathique avec le code associé. On peut ne pas se rendre compte quand on fait chauffer la dite carte bleue, etc. Donc une protection juridique. Et puis, il faut aussi, pour avoir une vie aussi équilibrée que possible, si la santé le permet, avoir des activités. Et des activités qui peuvent être à caractère professionnel ou pas. Alors, pas professionnel, ça peut être associatif, des relations diverses, etc. Donc, tout ça. Les gens qui se débrouillent à peu près dans leur existence naturellement se le font par eux-mêmes. Ils vont chez le toubib quand sont malades. Ils travaillent, ils ont des revenus. Ils trouvent un bailleur pour louer un appartement ou pour en acheter un. Ils se font un réseau de relations et ils font gaffe à leurs intérêts. Et puis, ils ont les activités professionnelles et de loisirs qu'ils choisissent. Les personnes souffrant de troubles psychiques ne peuvent pas, la plupart du temps, assumer plusieurs ou souvent la totalité de ces 6 points spontanément. Donc, il faut, il est nécessaire, il est indispensable que des structures d'accompagnement voient le jour pour permettre tout ça. Tu veux détailler des choses? Non. Donc, c'est quoi les exemples d'accompagnement de tout ça? Pour avoir droit, par exemple, à l'allocation adulte handicapé, il est normal de fustiger dans la société l'assistanat. Il n'y a pas de raison qu'on donne de l'argent à des gens s'ils ne compensent pas. Pour qu'on leur donne de l'argent, il faut qu'on reconnaisse qu'ils ne peuvent pas travailler normalement. Pour que cela soit reconnu, il faut une instruction. Il faut bien que la personne en situation de handicap aille frapper à une porte. La porte en question, c'est la porte de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, pour dire, ben moi, je ne peux pas travailler, j'ai un certificat d'un psychiatre. Voilà ma vie, ce qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui. J'ai poursuivi des études de niveau variable parce que la maladie psychique n'altère pas forcément l'intelligence pendant un certain temps. J'ai un DUT, j'ai un BTS, j'ai un CAP, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais je ne peux pas travailler. Donc ça, c'est éventuellement un peu suspect, mais au prix d'instruction, au prix d'information des personnels de la MDPH et avec l'inflexion donnée par la loi, effectivement, on arrive à reconnaître que quelqu'un qui est apparemment sur ses deux jambes, qui apparemment est capable de faire certaines choses, la preuve, il surfe allègrement sur Internet, etc. Et bien, malgré tout cela, il n'est pas en mesure d'assurer une activité professionnelle. Donc on est là au nœud du thème de la semaine, c'est il faut en parler, parce que si on n'en parle pas, eh ben on reste terré chez soi ou chez papa-maman ou on est dans la rue. Et donc pour s'en sortir, il faut faire appel et il faut en parler. Est-ce que quelqu'un veut intervenir à ce stade? Alors, la MDPH de mémoire est 39 rue de Beaulieu, donc c'est ce qu'on appelait dans le temps, ça a rassemblé les structures de deux organisations, la Cotorep, tout le monde a entendu parler de la Cotorep, donc la Cotorep n'existe plus maintenant, c'est la MDPH, et aussi la Commission départementale d'éducation spécialisée, qui a aussi été fondue dans l'activité de la MDPH. Alors, la MDPH, comme je le rappelle souvent à la commission exécutive, ça doit être le couteau suisse de la personne en situation de handicap. On en est encore assez loin. Donc on a effectivement dans nos rencontres régulières plein de critiques vis-à-vis de la MDPH, mais comme toute organisation jeune, elle se met en place et elle a progressé au cours de ces dernières années. C'est vrai qu'on trouve encore que les délais d'instruction sont fort longs, qu'il faut souvent prouver un certain nombre de choses, que tous les personnels des équipes ne sont pas forcément suffisamment avertis de nos problèmes. Mais tout ça aussi, c'est à nous de le faire avancer.
Dans certaines entreprises, la MDPH se déplace parce qu'il y a de nombreux handicapés employés. Est-ce que ça existe toujours, ça ?
Le rôle de la
pour le renouvellement de la de pardon le renouvellement de
alors de, le, ce qu'a prévu ce qu'a la prévu carte. La loi, c'est qu'il y ait une instruction personnalisée. Ça, l'édifice général est organisé autour du projet personnalisé de compensation. C'est toujours la même logique que celle que j'ai énoncée tout à l'heure. Donc, il y a une maladie, il y a une déficience, il y a un handicap, la société doit compenser, mais elle ne va pas compenser au chausse-pied de manière uniforme pour tout le monde. La loi a dit, dans les maisons départementales des personnes handicapées, il doit y avoir un accueil du projet de la personne en situation de handicap. Et c'est elle qui doit dire, puisque c'est un adulte qui a sa vie propre, qui a son projet propre. C'est cette personne-là qui doit dire, ben moi j'ai envie de faire ça, je me sens capable de faire ça et j'ai besoin que la société m'aide à franchir telle ou telle marche. C'est une grande difficulté dans le monde du handicap psychique, puisque pouvoir formuler ce désir, pouvoir formuler ce projet, pouvoir le rendre réaliste, si tout ça était fait, je dirais qu'il n'y a plus beaucoup de handicap psychique, quoi. Donc là, il y a un grand paradoxe, mais ça, on pourra le développer sans doute demain avec Patrick Gentil, c'est de quels désirs peuvent partir les personnes en situation de handicap, quelle est la réalité de l'accueil potentiel de la société. J'étais tout à l'heure à la projection d'un film dans le cadre du festival Voix publique d'une jeune handicapée mentale légère qui voulait être toiletteuse pour chiens. Les postes de toiletteuse pour chiens ne courent pas les rues. Est-ce que dans le cadre de son projet personnalisé de compensation, c'est à ça qu'il faut l'encourager ou est-ce qu'il faut essayer de l'amener vers d'autres désirs plus réalistes? Donc ça, je suppose que c'est ce que vous faites au quotidien. Il cultive le suspense pour que vous reveniez demain pour qu'il en parle. Donc, un projet personnalisé de compensation, c'est déjà un long travail d'accompagnement pour faire émerger cette chose-là, la structurer, voir en quoi c'est réaliste et ce que peut être cette compensation. Alors, la compensation, ça peut être aussi, par exemple, un toit dans un univers où on n'est pas tout seul, où on est soutenu, où on est accompagné et où il y a des gens qui veillent sur vous. Donc, il y a plusieurs structures qui savent faire ça. Donc, il y a des maisons relais où le terme plus adapté, c'est résidence accueil. Alors là aussi, Non? Le professionnel veut me corriger, là, il boue de me corriger.
Logiquement, ce ne sont pas les mêmes choses.
Oui.
Non, juste les maisons relais accueillent, selon la circulaire de décembre 2002, des personnes seules, isolées, en grande difficulté psychologique, voire psychiatrique, pour les accompagner vers le logement durable. Et les résidences accueillent, elles, ne s'adressent qu'à des personnes en situation de handicap psychique.
Oui, mais...
L'outil peut être le même, mais le public n'est pas le même.
Alors. D'accord. Et ce qu'on appelle, nous, maison relais, en fait, est une résidence accueil.
On a des maisons relais. Je trouve personnellement que c'est stigmatisant d'ouvrir des résidences accueil, spécifiquement pour des personnes en situation de handicap psychique. Les personnes qu'on accueille, on accueille actuellement 84 personnes sur le département en maison relais. Il y a 98% des personnes qui sont en situation de handicap psychique, mais elles sont accueillies en maison relais et pas en résidence accueil. Voilà, c'est tout.
Oui, là on est aussi au cœur de notre débat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut dire pour que ça existe ? Qu'est-ce qu'il faut dire pour défendre les places à l'intérieur et qu'est-ce qu'il faut dire pour que ce ne soit pas pris, entre guillemets, par d'autres publics concurrents. C'est-à-dire qu'au début, on voyait un certain nombre de structures ouvrir des maisons relais sur, entre guillemets, le financement psychique et le destinant à d'autres populations. Donc l'UNAFAM a un peu vu ça d'un mauvais œil. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ?
Qu'est-ce qu'il faut dire ? Enfin, on essaie.
Qu'est-ce qu'il faut dire pour que le service existe, pour qu'on y mette du fric, pour que l'État ne dise pas que quand même la Vienne, quand on compare à d'autres départements, vous êtes vachement bien dotés, donc on va y mettre la pédale douce. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le service ?
Alors, pour maintenir le service, il faut savoir que les maisons relais, donc on a sur l'UDAF, en collaboration avec l'UNAFAM, ouvert 4 maisons relais. Donc une à Châtellerault, une à Poitiers, une à Montmorillon et une à Pressac, pour un total de 84 places, donc personnes accueillies. Pour ce faire, on reçoit un financement de l'État via la direction départementale de la cohésion sociale maintenant, ancienne DAS, qui est de 16 € par jour et par personne accueillie. Ça pour permettre, pour financer en fait les accompagnatrices, enfin les accompagnateurs qui interviennent au sein même de la résidence. Ce qu'on essaie de dire, nous, c'est que en tant que travailleurs sociaux, on trouve que les maisons relais sont un excellent outil. Alors effectivement, on a tellement de demandes qu'on essaie de voir à chaque fois quand on rencontre la personne, on reçoit toutes les personnes. De voir si les services proposés par la maison relais vont répondre aux besoins de la personne. On est quasi dans un plan personnalisé de compensation aussi. Donc nous, ça ne dépend pas d'une orientation de la MDPH, par contre, pour être accueilli en maison relais. Mais on essaie vraiment de voir, de projeter la personne et savoir si elle va pouvoir s'entendre avec le groupe, si elle va pouvoir bien occuper son logement, puisque notre travail, c'est aussi ça, c'est de l'accompagner vers le logement durable. Alors quand je dis durable, une personne peut rentrer en maison relais à 25 ans et rester toute sa vie si elle s'y sent bien. Charge à nous, accompagnateurs, à faire en sorte qu'elle s'y sente bien. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on peut dire aux financeurs pour qu'ils continuent à nous financer ? C'est de se dire que globalement, nous, ça fait 5 ans qu'on accompagne des personnes en maison relais et on se rend compte qu'on a moins de retours en hospitalisation, par exemple. C'est déjà un argument de choc. Une journée en hospitalisation, c'est 252 € à la louche, à l'hôpital. Et nous, on est à 16 €. Enfin, voilà. C'est aussi ça. C'est de se dire que la personne, une fois qu'elle a un toit, c'est les besoins primaires qui avaient été décrits par Maslow il y a longtemps. Mais une fois qu'elle a un toit, elle peut investir ce toit, se sentir bien. Et grâce à l'accompagnement qui est présent du lundi au vendredi, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, que ce soit en lien avec la MDPH, que ce soit en lien avec l'accompagnement social, avec les GEM, avec les services juridiques. Enfin bon, voilà. Tout peut se mettre en place, tout peut découler ensuite. Puisque ce qui est proposé en maison relais, c'est un accompagnement social global et qu'il faut défendre.
Oui. Et si je viens en disant, j'ai des addictions, j'ai mon petit business, mais j'ai besoin d'être accueilli chez vous, monsieur Gentil.
Alors, ça peut être difficile. Ce qu'on essaie de voir, c'est si les addictions si, vont pas perturber la vie, parce qu'on est quand même sur du semi-collectif. Et on accueille déjà en maison relais des personnes qui sont en addiction, mais qui sont en addiction traitée. Quelqu'un qui est alcoolique, mais qui n'est pas accompagné du tout à ce niveau-là, on sait très bien que nous, on ne va pas savoir faire. On sait très bien accompagner, je pense qu'on le fait bien, des personnes en situation de handicap psychique, mais des personnes alcooliques, moi, je voilà. Hein. Sachant que l'effet perturbant que ça peut avoir sur le collectif, l'effet perturbant sur la gestion du logement, sur voilà, et tout ça. Après, au niveau des prises de toxines, on a aussi, on travaille avec les services spécialisés de Laborie par rapport à ça.
Donc, il faut bien rentrer dans une forme d'intimité des gens pour que l'outil dont vous disposez puisse être adapté à ceux que vous accueillez et réciproquement.
Oui, c'est l'accompagnement individuel avant tout.
Et en quoi est-ce que ça heurte, puisque c'est le sujet qu'on a à débattre régulièrement, aussi bien dans l'association qu'avec nos interlocuteurs, en quoi ça heurte l'intimité à laquelle chacun a droit. J'ai pas forcément envie que ma situation personnelle soit étalée sur la place publique, soit partagée entre un médecin, un travailleur social de l'UDAF, un travailleur social du département, mes parents, etc., etc. Le gars qui gère chez le bailleur social le secteur en question.
Je crois
que dire que taire.
Nous, on part du principe que tout peut être dit. Enfin, ça peut choquer, hein, mais tout peut être dit à partir du moment où on reste dans le... Quand on va recevoir la personne, on va essayer de voir si la personne peut... si la maison relais peut lui rendre service. Hein. On va pas forcément... On sait que la plupart du temps, ils sont orientés par des médecins. Hein. Donc, on n'a pas besoin de savoir de quoi souffre la personne. Hein, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le médecin trouve que le projet est cohérent. D'accord ? Puisque nous, la maladie, à la limite, bon, on va plus s'intéresser au niveau du handicap psychique, tout ce qui découle de la maladie. Dire ou pas dire, moi, je donnerais juste une expérience. Quand on a implanté la maison relais sur Saint-Éloi, il y avait, alors c'est anecdotique, hein, il y avait des menaces de pétition hein, par les gens du quartier. Et on a fait une intervention avec Marie-Nique Palot, qui était alors directrice de l'UDAF. En partenariat avec le bailleur Logiparc, on a proposé au comité de quartier de se rencontrer pour parler un petit peu du public qu'on allait accueillir. Alors, c'est vrai que on s'est trouvé face à 10 personnes. Donc, on était loin de la pétition, quoi, en fait. Et en fait, ce qui est véhiculé, effectivement, c'est les risques qu'il y a, c'est tout ce qui est véhiculé par les médias. Mais à partir du moment où on dit aux gens, voilà, c'est des gens qui sont en difficulté, qui vont bénéficier de l'accompagnement, on est garant pour faire en sorte que ça se passe bien. Voilà, on a fait cette intervention-là. Depuis, le comité de quartier nous invite régulièrement aux manifestations qui ont lieu. Enfin, je ne sais pas s'il faut... On peut tout dire, mais il ne faut pas tout dire non plus. Hein, donc, c'est s'adapter en fonction de la personne en face. Il n'y a pas de règle.
Non, mais comme disaient des proches, on peut parler de tout et rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Quoi. Et alors, c'est qui n'importe qui ? Les voisins autour,
c'est pas n'importe qui, puisqu'ils vont automatiquement intervenir dans l'environnement proche de la personne. Donc, c'est pas n'importe qui. On est tenu, nous, en tant que travailleurs sociaux, au secret professionnel. Donc, effectivement, on ne dit pas tout à tout le monde. On est dans le secret partagé aussi, avec les soignants, avec... mais je crois que comme dans, enfin, on sera amené à en reparler demain, mais quand on accompagne quelqu'un en entreprise, on va pas parler de lui au travers de sa maladie, on va parler de lui au travers de ses compétences. D'accord ? En maison relais, on va parler de lui dans sa capacité à occuper un logement. Il est locataire. Il est locataire dans le privé. Hein ? Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a des soignants dans la salle qui ont éventuellement la responsabilité d'associer ou de ne pas associer les parents, les proches au diagnostic, à la formulation d'une... Non. Ou des anciennes soignantes. Non. Qu'est-ce qu'on dit aux parents pour qu'ils sachent y faire, pour qu'ils sachent se positionner, pour qu'ils...
À une époque où c'était famille, je vouais. Non, c'était pas bien.
Moi, j'étais infirmière en pédopsychiatrie. Donc, c'est vrai que les familles, obligatoirement, étaient associées, puisque on parlait de leur enfant. C'était leur enfant qui était en difficulté avec des pathologies plus ou moins graves. Donc là, la famille, automatiquement, était associée. On ne pouvait pas faire sans. Ça, c'est et au contraire, il fallait les déculpabiliser, les aider, justement, à accepter cet handicap, parce que la première chose, la plus difficile, c'est d'amener son enfant consulter en psychiatrie. Et en ayant dans la tête que ben, on l'emmène jeune et comment il va vivre après avec cette étiquette. Donc c'est vrai qu'il fallait faire en sorte que la famille accepte aussi que l'enfant soit hospitalisé en hôpital de jour ou en CMP avec des groupes de psychodrame ou atelier conte, enfin des choses comme ça. Mais il fallait en premier lieu l'alliance de la famille. Et ça, c'était le plus difficile. Mais on y arrivait en général quand même.
Le plus difficile parce que la famille se cabre souvent et dans le déni.
Réticente.
C'est tellement énorme que...
C'est tellement difficile à la famille de se dire... Ben, mon enfant, il a une maladie psy, avec tout ce que ça comporte. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que c'est pour toujours? Ou est-ce que c'est que... Enfin, ils ont de l'espoir, mais l'espoir, il faut les aider à le garder. Voilà.
Et donc, on parle de troubles et on n'emploie pas le mot qui caractérise?
Non. Troubles de la personnalité ou des choses comme ça. Enfin, bon, évidemment, les gamins autistes, bon, mais en général, les médecins n'emploient pas forcément le mot. Mais c'est vrai que l'autisme, bon, il est connu et reconnu. Il y a des associations qui s'occupent de cet handicap-là. Mais autrement, pour tout ce qui est trouble du comportement, c'est un mot ou les borderline ou bon, les dysharmoniques, c'est des mots un petit peu passe-partout.
Si le mot autisme n'est pas prononcé, on ne peut pas prendre contact avec l'association Autisme Vienne. Si.
Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'à Châtellerault, on a eu un médecin qui a fait beaucoup pour Autisme Vienne et qui a fédéré... pas mal de familles qui avaient des gamins autistes en repli autistique. Et bon, ça se dit quand même, malgré tout.
Et ça se dit avec beaucoup de délai ou ça finit là, par après, se dire quand les gens sont le allés voir sur Internet et posent des questions trop précises
en général, les parents sont très documentés, ils lisent énormément, ils en savent pratiquement plus que nous, hein, plus que les soignants. C'est vrai qu'ils se documentent. Et puis, pour tout ce qui est aussi la façon d'aborder leur enfant, avec, je suis en train de chercher la méthode. Là, on a une pédopsie à la Borie, là, qui est vraiment géniale, c'est le docteur Varenne. Pour les enfants autistes, elle est très douée. La méthode TED, voilà les TED.
Comment ? Oui, mais c'est un peu la même question. Est-ce qu'on met des mots et ça permet d'aller plus loin et de s'appuyer sur les mots et de rebondir ? Ou est-ce qu'on a la pudeur de taire ces choses et qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça ouvre comme champ de possible de ne pas dire les mots ? Et qu'est-ce que ça ferme comme possible ? Enfin, si je donne mon témoignage personnel, moi j'ai été beaucoup libéré quand très rapidement le psychiatre a employé le mot de schizophrénie Et en plus, je lui ai demandé c'est quoi le scénario rose. Il m'a dit il n'y en a pas. Il m'a dit il y a du gris plus ou moins foncé. Et effectivement, moi, ça m'a permis de renouer contact avec mon fils, parce que sinon, c'était la rupture, enfin, comme dans un certain nombre de cas. Donc, quelle est la porte ouverte ou la porte fermée par l'emploi d'un mot ?
Parce que ça me donne aucune certitude quant à l'avenir. Ça m'aide pas à accepter un diagnostic fini, parce qu'en plus, quand on parle de l'autisme, je crois qu'il y a quand même une différence. Enfin, je ne sais pas, les infirmières qui sont là le savent peut-être mieux que moi. Il y a des batteries de tests, d'évaluations beaucoup plus précises que dans la maladie psychique. Pour moi, l'étiquette schizophrène ne me satisfait pas. C'est peut-être une façon de me dire, bah, vous êtes acculé à quelque chose de grave qu'il va falloir accepter, mais c'est tout. Ça ne m'a pas libérée.
Et qu'aurais-tu, oui, qu'aurais-tu attendu du soignant
Ah si, je voulais qu'on me le dise, parce que par contre, il m'est arrivé de faire beaucoup de chemin. Je voulais qu'on me dise ce qu'il avait, mais le mot schizophrène ne m'a pas apaisé, quoi. C'est tout. Pour moi, il ne représente rien de plus. Moi, je veux dire, je préfère qu'on me dise on va le soigner, on va l'accompagner, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de le remettre au plus près du quotidien des gens ordinaires.
Je ne voudrais pas parler au nom de la centaine d'adhérents des deux gènes de Châtellerault et de Poitiers, mais nous avons une vision quand même assez synthétique, parce que nous sommes confrontés au problème de la terminologie, du vocabulaire utilisé dans les échanges verbaux, lorsqu'on accueille des nouveaux, lorsqu'on fait des documents comme des affiches pour les portes ouvertes, lorsqu'on fait une lettre, etc., lorsqu'on s'exprime à la presse. J'ai remarqué qu'il y a souvent au moins un terme qui est récurrent, qui est systématiquement refusé, c'est celui de handicap. Donc il faut respecter ça. Et ma petite conclusion de ma petite personne, c'est que nous sommes en phase initiale de reconnaissance de cette maladie globale que sont les troubles psychiques, en tout cas en France. Je fais l'analogie, j'ai 62 ans, avec le cancer. Quand j'étais petit, le cancer, c'était un mot banni qui faisait peur à tout le monde. Les médecins, à l'époque, ne en parlaient éventuellement aux proches, mais le malade ne savait pas qu'il avait un cancer. Il y a même des personnes qui sont mortes du cancer sans savoir qu'ils avaient cette maladie. Et je pense qu'en 40-50 ans, la vision de cette maladie a beaucoup évolué. Et pour le trouble psychique, il faut être patient, mais on est aux prémices. Et on le voit à travers les médias. L'expression de ces maladies, c'est toujours quelque chose de terrible, de redoutable. Ce sont des crimes abominables, etc. Ça existe, c'est vrai, mais ça concerne une toute petite partie des troubles psychiques. L'immense majorité ne sont pas comme ça, et nous connaissons cette véritable image. Et justement, je pense qu'il faudrait la montrer beaucoup plus. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est le point de vue de la structure du fil Ariane qui accompagne ces deux gemmes, c'est qu'en en parlant beaucoup plus, il faut banaliser le trouble psychique et montrer son vrai visage. Mais le terme de handicap, c'est un terme qui est quand même globalement refusé par les personnes concernées. Bon, pourquoi elles peuvent le dire, mais elles trouvent que c'est c'est trop invalidant pour elles. Et puis, c'est surtout cette image que donnent les médias à travers la presse, la télévision, radio, qui est une image extrêmement négative, et ils ne veulent pas s'identifier à ça, et ça se comprend. Voilà, donc il y a un gros, gros cheminement à faire. Moi, je pense qu'on en est qu'aux prémices. Alors, avec eux, parler de déficience, oui. Parler de handicap, ça leur paraît quelque chose de rédhibitoire. Alors, il faudrait parler de degré dans le handicap. Le handicap est évolutif aussi. On est plus ou moins handicapé. Lorsqu'on sort de l'hôpital stabilisé, on l'est beaucoup moins quand on y rentrait, par exemple, etc. Et puis ensuite, il y a cicatrisation, et on voit des personnes qui mènent une vie presque normale, et certaines même normales, qui retravaillent, etc. Voilà. Il y a toute cette image, je crois qu'il faudrait l'UNAFAM, etc., et nous tous, qui connaissons un peu le sujet, c'est travailler à banaliser les troubles psychiques de façon à ce que dans la population, les non-avertis, ce soit quelque chose qui ne fasse plus peur du tout. J'aimerais que les adhérents s'expriment un peu là-dessus.
Oui, je vais essayer de rebondir. sur ce que tu viens de dire, peut-être avec quelques difficultés, mais encore une fois, je pense qu'il y a quand même une vraie spécificité des maladies mentales et que même si on fait l'histoire des maladies et de leur résonance sociale, je pense que ce qui est dans, entre guillemets, l'inconscient collectif ou la représentation qu'on a des maladies mentales, ces maladies-là conserveront quand même une résonance particulière parce qu'elles perturbent la relation quand même. Et de ce fait, si tu veux, l'évolution des comportements de la société ou des individus qui la composent par rapport à ce type de maladie conservera certaines particularités quand même, je pense. Alors, bon, ça c'est une chose que je voulais dire. L'autre chose que je voulais dire, c'est que le tableau que tu nous as présenté, on peut en faire une lecture, je dirais, en commençant par le bas. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours le cas compte tenu de l'âge des gens qui sont concernés, mais le clash peut déjà s'exprimer au niveau de l'activité professionnelle et rompre la relation à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe quand ça arrive ? Bah, c'est que la protection juridique, l'accompagnement social, le toit, les ressources, la continuité des soins, tout ça se passe à l'intérieur de la famille. Et déjà, si tu veux, la première étape, c'est comment la famille vit, si tu veux, ce premier épisode qui est forcément profondément stigmatisant pour la famille. Je veux dire que le parent de... Moi, j'ai cru avoir déjà rencontré des témoignages de parents qui se sont sentis profondément altérés dans leur propre personnalité. C'est-à-dire que même professionnellement, d'un seul coup, ils se sont sentis moins bons. Donc la première étape, si tu veux, c'est que dans tout le cheminement qu'on vit au sein de la famille, dans la reconnaissance du problème et dans les phases de déni par lesquelles on passe, en parler est forcément stigmatisant. Donc il y a une sorte, à un moment donné, de rupture avec cette étape parce que pour accéder, à cet environnement.
Quand tu dis c'est stigmatisant, ça veut dire que ça fait souffrir ou ça veut dire que ça fait encore davantage souffrir parce que ça expose aux autres une fragilité ?
Je pense, oui. Qu'en parler fragilise encore un peu plus, si tu veux, les gens dans leur vécu à ce moment-là, quoi. Non, mais je veux dire, c'est une étape. Je ne dis pas que c'est une situation définitive, mais je pense que la première étape, elle est forcément stigmatisante pour l'environnement proche, quoi, je veux dire.
Tu n'es pas d'accord, Gilbert ?
Que je ne sois pas d'accord, je comprends très bien, parce que je crois que tu es un proche de grands malades, et ce que je constate, c'est que les parents, ou alors les très proches de malades, les voient dans une situation qui est inférieure à leur vraie situation, avec moins de capacité. Je vois par exemple un GEM, ça a été baptisé un peu OVNI, parce qu'en fait, dans un GEM, on a des personnes en situation de troubles psychiques, donc au minimum avec des déficiences, au moins provisoires, et on leur demande de s'entraider, et on leur demande d'évoluer vers l'autonomie. Et grosso modo, ça marche. Pour certains, ça marche même très, très bien. Mais ce cheminement, moi, je le vois à travers des bénévoles de l'association qui sont, pour la plupart, des proches ou des parents. Ils n'y croient pas au début, parce que ça leur paraît absolument illusoire, parce qu'ils vivent un cas qui est encore plus difficile souvent, et ça leur paraît impossible. Bon, il est vrai que dans un GEM, on accueille des personnes qui, dans le spectre, sont quand même plus près de l'autonomie que l'inverse. Hein. Ce ne sont pas les cas les plus lourds, etc. Bon, donc, mon jugement est nuancé. Mais les parents voient souvent leurs proches malades avec plus d'incapacité qu'ils n'en ont en réalité. Voilà ce que je voulais dire.
Alors, moi, je voudrais dire que les adhérents du GEM, quand ils vont adhérer au GEM, ils ont fait déjà un gros travail. Et ce travail, c'est le travail du deuil. Et donc, à titre personnel, puisque mon fils est malade psychique, quelle que soit la maladie, schizophrène, bipolaire ou autre chose, il est donc malade psychique. Et donc, mon fils n'a pas fait le deuil de cette sixième, ce sixième point que l'UNAFAM recommande, c'est-à-dire l'activité professionnelle. Donc, il est toujours dans cette idée. J'ai fait des études, je ne peux pas donc mettre à profit ce que j'ai appris. Tous mes copains ont un travail, donc ils ont pu envisager de faire vivre une famille, d'acheter une maison, de changer de voiture. Ok, on est dans la société de consommation, dans ce discours-là, mais à 90%, de la population, disons, européenne, nous sommes tous des gros consommateurs. Donc, il est tout à fait dans la norme. Hein. Mais il ne peut pas, parce que justement, il n'a pas d'activité professionnelle. Et il ne peut pas en avoir. Et mon fils hiberne l'hiver. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se lever le matin. Comment un... professionnel, enfin disons une entreprise, pourra accepter que mon fils vienne au travail à 2h ou à 3h ou un jour à 8h du matin. Il est fâché avec le temps dès que le mauvais temps arrive. Et ça c'est un des symptômes de la maladie psychique, hein, enfin, je crois. Bon, donc il n'a pas d'activité professionnelle et il n'a pas fait ce deuil-là et il souffre. Bon, donc tu connais mon fils, Gilbert. Il est venu au GEM. Bon, actuellement, il ne veut plus venir pour des raisons qui lui sont personnelles. Mais il ne pourrait pas actuellement venir. Il se lève à 3h de l'après-midi. Il prend son café, il met une heure avec sa clope, etc. Donc, il va arriver au GEM à 18h quand vous fermez. Bon, voilà. Et si on me dit à moi, sa mère, que ce n'est pas un handicap, alors je ne comprends pas ce que ça veut dire le mot handicap et il faut qu'on me l'explique. Voilà ce que je veux dire. Alors après, je parlerai tout à l'heure peut-être de la deuxième souffrance d'Éric. Hein, c'est celle justement de ses proches qui vieillissent et qui donc le quitteront un jour. Voilà. Donc je vais te laisser...
Non, mais c'est tout à fait vrai, tout à fait exact, et c'est une souffrance terrible. Ça, c'est indéniable ce que tu dis, c'est absolument vrai. Mais je le nuancerai un petit peu. Par exemple, on nous a toujours dit le matin, il ne faut pas faire d'activité parce que, justement, ce que tu expliques. Mais il se trouve qu'un jour, on a décidé de faire des séjours d'une semaine. J'ai voulu faire les 4 premiers pour voir comment ça se passait. Il se trouve, pendant ces séjours, on s'est dit le matin, on ne prévoit rien parce qu'il y en a qui vont se lever. On m'a dit là, il y en a qui ne dorment pas, il y en a que tu ne réveilleras pas avant midi. Et alors, entre grandes surprises, les derniers, les plus retardataires, se lèvent à 8h30, 9h, 9h. Tout le monde est sur pied. Parce qu'effectivement, c'est un cadre différent. Il y a une motivation, il y a un programme, on fait des sorties. C'est un cadre qui n'est pas leur cadre habituel. Il se passe quelque chose. Je ne sais pas si ça se passerait bien pour ton fils, mais ça, je suis obligé de le dire, c'est vrai. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est vrai. Par contre, ce que tu dis, nous le constatons chez les plus grands diplômés, si je puis dire. Parce qu'effectivement, surtout ceux qui ont fait, bon, c'est quand même une petite minorité, mais certains ont fait des grandes écoles d'ingénieurs, ils sont en relation avec leurs promos. Et effectivement, ils sont en relation téléphonique ou autre, où ils sont, chaque année, ils se retrouvent. Et effectivement, là, ils se rendent compte qu'ils sont marginalisés. Et ça, c'est terrible, je le comprends. Et là,
Mais je pense que même quelqu'un qui a fait des études peut arriver à ce deuil. Mais dans le cas de mon fils, il ne le fait pas. Et je crois quand même qu'ils sont peut-être nombreux de ne pas le faire. Parce que tous les adhérents du GEM, quel que soit leur niveau d'études, ça n'a pas d'importance. Ça. C'est de faire le deuil, de ne pas, si tu veux, d'abandonner tous les espoirs ou les illusions peut-être. Hein. Qu'on avait quand on avait 20 ans ou 25 ans. Alors après, si tu veux, quand on a fait ce deuil, c'est comme quand on fait le deuil de quelqu'un qu'on a perdu, son enfant, son mari ou sa mère, ou je ne sais pas. Donc à ce moment-là, si tu veux, on va beaucoup mieux. Mais ce deuil-là, je ne sais pas si tous les malades le font.
Et quelles paroles sont susceptibles d'aider ou de ne pas aider là ? Est-ce que...
Moi, si on pouvait me donner une recette, je suis preneuse. Mais comme m'a dit une psychiatre, madame, s'il y avait des recettes, ça se saurait et vous auriez été informée. Moi, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de recette. Voilà.
Gilbert.
Oui, le mi-temps, etc.
Gilbert dit que il faut en parler pour faire changer le regard.
Moi, tout à fait. Ça, j'en suis convaincu.
Alors, quand tu dis qu'il faut en parler. Quel mot faut-il dire et à qui et,
Mais les mots, on va les trouver ensemble, hein, parce que les mots, en fait, ils s'adaptent à chaque personne. Il y a parmi nos adhérents des personnes qui reconnaissent, qui admettent leur maladie, mais d'autres non. Et c'est cela, les cas les plus difficiles. Et les cas les plus difficiles, je trouve, ce sont les cas où le malade ne veut pas reconnaître sa maladie et où ses proches ne veulent pas reconnaître la maladie. C'est-à-dire que le deuil doit être total, il doit être fait par la famille et par les malades. Et là, sinon, on ne peut pas avancer, ça, c'est un constat que nous faisons. Vous voyez ? Alors, dans les cas comme ton fils, etc., moi, je pense qu'il faut s'adresser et faire confiance au monde du soin. Chaque cas est complexe, on sait que chaque traitement est personnalisé, mais cela veut dire, il me semble aussi que le soin le mieux adapté pour telle personne n'a pas été encore trouvé, je pense, aussi.
Quand tu parles du soin aussi d'accompagnement.
Oui. La psychiatrie, ça n'est jamais que de la, ça n'est pas, ça ne peut pas être que de la chimie, ça serait trop facile. Hein. Voilà.
Yves nous disait combien, si tu veux, cette maladie, combien l'handicap de cette maladie dépendait de l'environnement. Donc de l'environnement familial, je suis d'accord avec toi, il faut que la famille reconnaisse la maladie, mais aussi de l'environnement social. Et tout à l'heure, j'ai entendu Monsieur Gentil nous dire... Il y a 86 places dans les maisons relais. Et j'avais entendu précédemment Yves dire, globalement, sur la Vienne, il y a 4000 malades psychiques. Mmh. Or, quand tu fais la fraction, tu vois un peu ce que ça donne. 86 sur 4000. Qu'est-ce qu'on fait de tous les autres, de tous ceux qui ne sont pas en maison relais? On pourrait peut-être même donner les autres structures, je crois qu'il y en a pas mal d'autres hein, qui sont offertes dans la Vienne ou ailleurs, mais ça ne fera jamais 4000.
Non, enfin, tout le monde ne relève pas forcément non plus de ce système d'accueil. Enfin, effectivement, il y en a une part non négligeable qui peut vivre en milieu ordinaire, notamment si ça est assuré. Notamment ça. Hein, donc, c'est les services d'accompagnement à la vie sociale, par exemple, donc, qui relèvent là d'orientation MDPH et financé par le Conseil général. C'est aussi les SAMSA, les services d'aide médico-sociale pour adultes handicapés. Donc là, on est en train d'en ouvrir avec un autre partenaire qui est la Mutualité de la Vienne pour 12 places. Le SAMSA, c'est l'accompagnement social plus du soin. Et ça peut permettre effectivement à des gens de vivre dans un logement habituel. Donc effectivement, tout ne relève pas non plus forcément de l'hébergement collectif. Alors en hébergement collectif, il y en a qui vont plus loin dans la prise en charge. Là. Donc il y a les foyers d'accueil médicalisés, par exemple, qui sont plus contenant que les maisons relais. Il y a aussi les familles gouvernantes, c'est-à-dire ça aussi, c'est un peu comme les GEM, les soignants ne croyaient pas que ça pouvait marcher, c'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un, profil type une mère de famille ayant élevé ses enfants et n'ayant plus de conjoint, solide dans ses bottes. Vous habitez à proximité de 5 personnes handicapées psychiques. Il y en a 3 dans un appartement de 4 pièces et 2 dans un appartement de 3 pièces. Vous vous assurez qu'ils mangent à peu près équilibré, qu'ils font à peu près le ménage, que ça se passe à peu près bien entre eux. Et puis voilà. Et on destine ça à des gens ayant notamment été longtemps en institution, c'est-à-dire dont tout le monde pensait qu'ils avaient une autonomie relativement restreinte. Et il se trouve que ça marche. Alors, ça ne marche pas tellement dans la Vienne parce que ça manque d'orientation de la part des soignants. Mais là où c'est mis en place, ça marche. Donc là encore, contre tout pronostic, c'est une institution qui ne coûte pas cher et qui fonctionne.
Dans ce que vous proposez, vous avez développé tous les centres d'accueil parce qu'il y a un accueil qui ne paraît pas proposé, c'est l'accueil temporaire. C'est-à-dire que dans le cas où le jeune adulte se sent très mal, il est obligé, dans les 3/4 des cas, soit de rester chez lui, soit d'aller à l'hôpital. Il n'y a pas de structure intermédiaire parce que l'hôpital n'est pas toujours la solution. Donc je pensais par exemple... dans les maisons relais, est-ce qu'il y a un accueil temporaire? Est-ce que vous avez l'air de dire qu'on pouvait y vieillir et y mourir peut-être même? Non, bon, non, là, c'est une plaisanterie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Comment dire? Parce que pour les familles, les familles qui restent avec leurs adultes, ben, ce n'est pas les enfants, mais il y a des moments où on a besoin de faire des pauses. Ça me fait penser un peu à la maladie d'Alzheimer, où le proche de quelqu'un d'Alzheimer a besoin, pour son équilibre, parce qu'on parle du malade, hein, mais on était aussi là aussi pour parler des proches. Donc, par moment, moi, je pense que j'aurais besoin de ne plus voir mon fils quelque temps, ne serait-ce qu'une semaine, pour me reconstruire un petit peu. Voilà. Et ça, moi je vois quand je vais à l'hôpital, jusqu'à présent, ce n'est pas l'hôpital qui m'a parlé de ma femme. Ce n'est pas l'hôpital qui m'a demandé. Moi j'ai 2 enfants malades. Donc ce n'est pas l'hôpital on m'a jamais dit, madame, comment vous survivez là-dedans. Et je m'aperçois qu'il n'y a aucune structure, justement. Comme dans la maladie d'Alzheimer, où on commence à dire, parce qu'on parle d'abord de la maladie, et maintenant on commence à se rendre compte que pour que le malade aille mieux, il faut que l'accompagnant aille bien. Donc si on ne propose pas à un moment donné des respirations à l'accompagnant, parce qu'on dit que bon, on informe les familles, oui je suis d'accord, on leur dit la schizophrénie, voilà le mot, comme ça on le lâche. Mais je pense qu'il faut aussi dire, même si on explique bien, qu'on dit que ça va être difficile, peut-être qu'on pourrait dire, il y a peut-être plus de travail à faire avec la famille et peut-être plus aider la famille. Bon, je peux parler aussi de la maladie de mon fils, je peux parler de lui en tant que malade, mais là, je voulais aussi voir, parce que là, je suis là ce soir en tant que proche de malade, parce que je trouve que mes enfants sont très bien soignés. Donc, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Et quand je vois là, activité professionnelle, moi, ils ne sont pas dans la vie professionnelle, et ils sont jeunes, hein. Moi, les problèmes qu'ils se posent, ce ne sont pas des problèmes d'ordre professionnel, ce sont des problèmes uniquement d'ordre relationnel. La vie aux autres, et notamment pour un jeune garçon qui est schizophrène, la sexualité qui est handicapée par la prise de médicaments. Et moi, mon fils, la seule question qui se pose, c'est, eh bien, j'ai des problèmes sexuels, déjà, est-ce que je vais pouvoir rencontrer un jour quelqu'un? Et ça, bon, c'est pareil, on n'en parle pas souvent non plus, ça. Voilà. Donc, en tant que proche, moi, je voudrais qu'on me dise à un moment où est-ce qu'on peut... alors, je sais, hein, je me suis fait aider au CMPP. Je vais y retourner, puisque par moment, c'est plus dur. Mais ce n'est pas une pause suffisante pour moi, quelquefois. Il faudrait que je puisse rentrer chez moi un soir et me dire, je n'ai pas 2 enfants handicapés, parce que moi je prononce le mot handicapé, je le ressens comme un handicap, qui m'attendent parce que la solitude leur pèse, parce qu'ils ne sont pas bien un jour, le lendemain il y en a un autre qui n'est pas bien, et pour ça on ne fait absolument rien. On les traite séparément. Moi, j'ai l'impression d'être la mère de deux enfants et jamais on se dit, mais peut-être qu'il faudrait un petit peu que vous respiriez. Voilà.
Merci, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de réponse institutionnelle dans la Vienne à ce sujet-là. Donc, je sais que l'UNAFAM du Loiret a travaillé à un programme qui s'appelle Répit.
Si Monsieur Renaud prend en compte le projet pour lequel je l'embête sans arrêt, dans les lieux de vie, c'est prévu, en plus des 16 places d'hébergement permanent, 4 places d'hébergement temporaire. Enfin, il y a déjà des lieux de vie qui existent comme ça sur pas mal de départements qui font école. Alors bon, Monsieur Renaud avait parlé de se pencher dessus. Je ne sais pas s'il va donner suite. Il a déjà...
Quand Jean Renaud se penche sur un problème, en général, il y a des suites. Monsieur Gentil est là pour en témoigner. Mais effectivement, il faut après trouver des partenaires, il faut trouver des financeurs, etc. Donc Jean Renaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon prédécesseur à la présidence départementale de l'UNAFAM et qui est maintenant délégué régional. Donc qui est un accoucheur de projets.
Je ne vais pas apporter une réponse vous concernant, mais c'est vrai qu'il y a enfin souvent quand on accueille des personnes, on les rencontre pour les maisons relais, on se rend compte qu'il y a un travail préalable qui n'est pas fait. Alors ça ne va pas répondre forcément à votre interrogation, mais on a essayé de travailler. J'ai commencé à y réfléchir dans mon coin, j'en avais parlé avec Jean Renaud. Ce qui manque aussi, c'est de réponses d'hébergement pour les moins de 25 ans qui n'ont pas de ressources. Hein? Qui n'ont pas les moyens donc de se payer un loyer, qui n'ont pas la AAH, et j'avais éventuellement évoqué la possibilité de monter des appartements de réadaptation entre guillemets. Hein. Mais là, on se heurte, mais comme pour tout, un problème de financement, parce qu'on sait, très bien que ça pourrait répondre avec, on a une convention avec l'hôpital Henri Laborie qui pourrait s'engager encore par rapport à cet accompagnement-là. Et c'est quelque chose qui manque sur le département. Hein. Des préalables entre la vie à l'hôpital, la vie à l'extérieur et la vie en maison relais, qui, je le rappelle, sont des services et ne sont pas des établissements, hein, les maisons relais. Hein. On est vraiment sur du logement privatif. Hein. C'est du logement social. Hein. Voilà.
Parmi les paroles à dire, pour vous répondre aussi, il y a notre exigence de proches usagers du système de santé et de prise en charge. Enfin, là aussi, parler sans stigmatiser, pour nous, c'est de dire que nous avons aussi des droits et que la société a aussi des devoirs envers nous, exactement comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'il paraît normal qu'un malade soit soigné, et il ne paraît pas encore évident qu'un proche de malade ait aussi besoin de soins, enfin d'accompagnement, etc. Donc ça aussi, à certains... Moi, je le dis, c'est-à-dire que effectivement, vous prenez la comparaison avec Alzheimer, je pense que c'est une bonne comparaison. Souvenez-vous la sécheresse de 2003, je crois, où on avait accusé les Français d'être des salopards qui négligeaient leurs vieux. Et aujourd'hui, effectivement, avec le plan Alzheimer, la société en général et le gouvernement en particulier se dit que déjà quelqu'un qui a son vieux parent 11 mois et demi sur 12... il rend un fier service à la société et qu'il n'y a pas forcément de reproche de piété filiale à lui faire, et que lui accorder un répit de 15 jours ou d'un mois par an, ça peut paraître légitime. On n'en est pas encore. Oui, mais on n'en est pas encore là pour nous. Donc, en parler sans stigmatiser, pour moi, c'est aussi ça, c'est de dire que les familles peuvent donner de la voix en, et ce n'est pas contre leurs proches, ce n'est pas un reproche en disant « quelle vie impossible tu me fais », c'est exiger que la société compense nous aussi tous les pets qu'on a pris. Quoi. Non, mais vous avez le droit.
Nous devons tenir le choc. Nous devons tenir. Et il y a un gain économique à la société qui est très net, c'est-à-dire que dans le cadre de la maladie... Moi, j'ai aussi eu le problème avec la maladie d'Alzheimer de mon père, mais je veux dire, si on craque, eh bien, la personne se retrouve hospitalisée, c'est très cher, tandis que quelqu'un qui est bien soutenu tiendra très longtemps. Et moi, j'ai vu deux cas de maladie d'Alzheimer dans ma famille, un cas où il n'y avait pas de soutien et le propre accompagnant est tombé malade. Je ne vois pas le gain pour la société de faire ça. Donc, il faut se battre en disant que, de toute façon, un accompagnant qui est en bonne santé mentale, psychique, eh bien, un accompagnant qui est dans cet état de bien-être provisoire sera toujours mieux qu'une hospitalisation pour son proche malade. Et la société y gagne, comme dans la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc moi, je dis ça uniquement, comme je connais un petit peu les politiques, il n'y a que l'argent qui fait tourner le monde. Ben, je dis, il faut quand même mettre ça en avant. Voilà. Ouais, parce que sur notre bien-être à nous, il passe après celui des...
Oui, non mais l'UNAFAM, comme d'autres, a eu des pudeurs à dire ça, considérant qu'à ce moment-là, on mettait en opposition les proches et les malades. On dit qu'on est tous victimes de la maladie, plus ou moins. Le malade est plus victime que nous, mais nous sommes aussi victimes de la maladie. Et donc, on a aussi droit à compensation. Et effectivement, la société s'en sort mieux. Alors, on parle de handicap ou il ne faut pas parler de handicap?
En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que nous allons ensemble dans le milieu ordinaire tous les jours, à travers les activités, et on se rend compte que lorsque les services, les lieux publics où nous allons avec eux ne sont pas prévenus, ils ne se rendent pas compte. Vous installez un local d'une association, vous prévenez que vous allez venir d'une association de personnes qui souffrent de troubles psychiques, ça va être un rejet général. Mais si on ne le prévient pas, ils ne s'en rendent pas compte, très peu, ou sont des spécialistes. J'ai même amené, moi, des équipes à l'aéroclub, donc à Biarritz. Mes collègues pilotes ne s'en rendent pas compte. Si, il y avait un élève pilote, mais c'était un psychiatre, je ne le savais pas. Mais lui, il était émerveillé. Il était émerveillé. Voilà ce que je veux dire aussi. Alors là, c'est un petit peu contradictoire ce que je dis, parce qu'on dit qu'il ne faut pas stigmatiser. Et justement, quand on ne le dit pas, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, quand on ne le dit pas, les gens ne se rendent pas forcément compte. Mais donc, première étape, être discret. Deuxième étape, le dire vraiment et le banaliser à ce moment-là.
Gilbert, moi je veux bien, si tu veux, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nos malades psychiques, on ne s'en rend pas compte qu'ils sont malades quand tu les vois. Je veux dire, c'est parce que, enfin pour ceux qui ne sont pas stabilisés, c'est parce que justement, si tu veux, ils ont ces fameux symptômes ou positifs ou négatifs qui leur empoisonnent la vie, que finalement, si tu veux, quand ils vivent en société. Donc la première des sociétés, c'est quoi? C'est la famille. La deuxième société, ça va être l'école ou l'université, s'ils sont en CAP, l'entreprise. Après, ça va être le milieu du travail. Et c'est là, si tu veux, qu'ils craquent. Jeune adulte, ils craquent. Parce que là, tous ces fameux symptômes vont se coltiner aux autres, et les autres vont les repousser, parce que justement, c'est là où on va s'apercevoir. Mais quand tu as eu un accident de voiture et que tu as une jambe en moins, tu vas être en béquille ou tu vas être en fauteuil roulant, mais là, ça va se voir, et tout le monde va dire, mais ce malheureux, il faut l'aider, etc. Un aveugle, tu vas le voir dans la rue, tu vas s'il veut bien, hein, s'il ne débrouille pas trop... tu vas lui faire traverser la rue. Tandis que nos enfants, non. Dans un premier temps,
temps, et c'est ce que disait aussi Yves, comme ils s'adaptent dans aucun milieu, école, entreprise, etc. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ils sont paresseux, déjà. Voilà. Ils sont paresseux, tu fous rien, les parents, tu fous rien, les professeurs. Ils fous rien, votre fils.
Oui, mais alors que faire ?
Voilà.
C'est pour ça que je dis, il faut banaliser.
C'est pas ça, si tu veux. Mais bien sûr qu'il faut, en parler, je crois. Comment ça ? Je sais pas trop. Moi, personnellement, à partir du moment où j'ai su que mon fils était malade, je ne l'ai caché à personne. J'ai pas pris une pancarte en disant « Attention, j'ai un fils malade ». Mais quand on me disait « Que devient Eric ?», je disais « Il a une maladie qui, pour l'instant, l'empêche de travailler. » Voilà, et qui fait qu'il se lève souvent à 3 heures d'après-midi. Mais je n'ai jamais caché ni à ma famille, c'est-à-dire mes frères, mes soeurs, mes cousins, etc., les voisins, etc. Bon, et voilà, je ne sais pas si j'ai bien fait. Je crois qu'Eric n'aimait pas que je dise qu'il était malade. Ça, je crois que c'est vrai. Mais je ne le disais pas si systématiquement. Je le disais si on me demandait mais comment ça se fait qu'il est tout le temps chez vous, etc. Voilà. Bon, donc à ce moment-là, je prenais la liberté d'en parler. Voilà. Donc, je vais laisser la parole.
Ben nous, on sait très bien qu'on adore Eric. Hein. Il est toujours le bienvenu chez nous. On n'a jamais, jamais eu de soucis avec lui. Bon, on sait très bien pour l'instant qu'il n'a pas envie de venir. Mais nous, on n'a jamais... Enfin, nous, on est adhérents. On est plusieurs là à être adhérents. On est 5 ou 6. Et au GEM, nous, on n'a pas de différence entre le schizo. D'abord, on ne le sait pas. On n'a pas envie de le savoir. Ça ne nous regarde pas. La maladie, nous, c'est... On est là pour être ensemble, pour s'amuser, faire des activités... Et on ne fait pas de différence entre nous. Il y a des hauts, il y a des bas, partout. Mais comme tout un chacun, je veux dire, je pense qu'on a tous dans la vie des hauts et des bas, même si on n'est pas malade ou même si on n'est pas handicapé. Nous, c'est un mot qu'on ne veut pas entendre, ça, le handicap au GEM. C'est clair, c'est net. Pour nous, c'est non. Voilà. C'est un fait de société, c'est une association, mais on n'est pas des handicapés. On ne nous regarde pas avec une grande pancarte handicapé. Je pense que là, ce soir, si je ne vous dis pas que je suis adhérente, est-ce que ça se voit ?
Mais non, mais c'est ce que je vous dis, ça ne se voit pas, si vous voulez. Hein. Ça commence à se voir quand on a, si vous voulez, on est en crise. Voilà. Et à ce moment-là, le milieu qui vous accueille à ce moment-là, comme je disais, si c'est l'école, l'entreprise ou quelque chose, à ce moment-là... Eh bien, ils n'acceptent pas la crise, c'est ça, je veux dire. Bon, vous êtes, je crois, hein, parce que je vous connais un petit peu aussi, hein, je suis venue quelques fois, pas très souvent, mais vous êtes tous stabilisés. Donc, c'est vrai que vous avez une vie, comme on dit, ordinaire, comme la plupart des gens qui sont dans cette salle. Hein. Bon, donc, mais il y en a aussi, mais il y a ceux qui ne sont pas, si vous voulez, stabilisés. Et c'est ceux-là qui sont malheureux, qui sont en souffrance, et puis voilà, et où on ne sait pas trop quoi faire pour eux.
Oui, enfin, si on est stabilisé, c'est quand même grâce aux médicaments. Hein. Et surtout, pas oublier le traitement. Ça, c'est très important. Hein. Faire très attention à son traitement. Parce qu'on en voit malheureusement chez nous que malheureusement, ils ne suivent pas le traitement. Et puis, le résultat, ça retombe. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Hein.
Et alors, vous en parlez de ça ?
Ça nous arrive, oui. Oui, les traitements, on en parle, oui, régulièrement.
Et qui peut en parler à part entre vous ? Est-ce que les proches peuvent aussi rappeler la nécessité de prise du traitement ou est-ce que c'est insupportable, ça ?
Les proches, oui, bien sûr, moi, j'ai pas de problème. Hein. Si ce soir, je vais oublier, on m'a dit de prendre ton traitement. Bon, ça prouve quand même qu'on est un peu... on a besoin d'avoir quelqu'un autour de soi, hein. De toute façon, c'est certain. Quand on est bien entouré, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, c'est sûr que... Ouais. Par contre, ouais. Je finis pendant que je l'ai, je termine et puis je te le passe. Oui, je voulais dire quand même que il y a, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs.
Ah, voilà.
Non, c'est pas le traitement.
Vous parlez entre vous de médicaments et tout ça. Ça vous disait.
Je voulais parler surtout ce qui est dommage, c'est pour nous le handicap, on n'acceptera jamais quoi. Ça de ce côté-là. Par contre, ma maladie, moi au contraire, je suis fier d'en parler. Hein. C'est ce qui m'a permis d'avancer en fait pour moi. Alors pour ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
Et si on doit donner nous des conseils aux gens de la MDPH par exemple pour instruire les dossiers, pour avoir des droits, pour accéder à l'allocation adulte handicapé, pour accéder au service d'accompagnement à la vie sociale, qu'est-ce qu'il faut qu'on leur explique, nous ?
Mais il faut déjà que dans les dossiers, ils identifient bien les dossiers concernés par le trouble psychique. Ce qui...
Mais donc il faut afficher des choses, enfin, et quoi ? Et comment ?
Si tu, enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on est immanquablement obligé de scinder le débat sur en parler sans stigmatiser en deux niveaux. Il y a forcément un niveau qui est, je dirais, celui de la relation avec la société pour augmenter son seuil de tolérance, de reconnaissance, et cette reconnaissance pouvant déboucher sur des droits. Mais il est sans doute difficile d'imaginer que la société va nous reconnaître des droits si ce n'est pas basé sur la reconnaissance d'un handicap. Et puis alors, il y a le niveau individuel, effectivement, qui est celui du vécu individuel, et où là, les choses me paraissent forcément beaucoup plus complexes. Je pense que, du point de vue du patient, se refuser de se reconnaître comme handicapé, c'est par essence, je veux dire, ce qui peut l'aider justement à progresser, s'accepter comme handicapé, comme malade, ça serait se condamner à vivre une situation qui lui est forcément intolérable. Donc, je veux dire que c'est la base de sa démarche de soins, quoi, presque, de se refuser comme handicapé. Et puis, il y a le niveau du vécu de l'entourage. Où là, la question est quand même est de savoir si en parler nous aide à vivre ou nous expose davantage à la stigmatisation. Et je dirais que là, le sujet est quand même délicat parce que dans notre propre démarche, pas dans l'acceptation, mais la reconnaissance de la maladie ou de l'acceptation et du malade dans la diversité de ses comportements, on a déjà, nous, quand même des tas de difficultés à... Et il faut reconnaître que le patient ne nous aide pas forcément toujours. Et cette compréhension qu'on a parfois du mal à totalement, je dirais, appréhender, c'est aussi difficile de la faire appréhender par un entourage. Donc je veux dire que là encore, on rencontre des tas de difficultés dans le fait de parler de la maladie avec l'entourage, parce qu'on a du mal... Enfin, moi, j'ai toujours ressenti énormément de difficultés à en parler, en tout cas un peu dans le détail, parce que ce qui nous est déjà extrêmement difficile à comprendre pour des personnes pas directement concernées paraît, je veux dire, être relevé d'une autre planète. Voilà. Je ne sais pas, enfin, c'est autant de questions qu'autre chose, quoi. Mais je pense que là, déjà, la reconnaissance des deux niveaux me paraît importante, quoi. Je veux dire, il y en a une qui passe forcément par le handicap, il y en a une autre qui, du point de vue du patient, passe sans doute par le refus du handicap. Le problème, c'est que c'est à l'intersection. Et puis après, il y a au milieu de tout ça, la façon dont on le vit. Oui.
Aux yeux de la MDPH, oui. La personne ne fait pas une démarche en disant bah, « moi, j'ai le droit à ce que la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées... »
Mais est-ce que ça peut passer par autre chose que la reconnaissance d'un handicap ? Ça, c'est...
Oui, mais on touche un sujet très compliqué. Michel.
Oui, ce sont des choses dont ce n'est pas toujours facile de bien se faire comprendre. Il faut certainement y mettre beaucoup de cœur et beaucoup de délicatesse. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer une assemblée générale du Fil d'Ariane, quand c'était l'ancien Fil d'Ariane, où il fallait rendre compte de tout ce qui avait été réalisé au bénéfice de ces personnes qu'on accueille et où il fallait rendre compte à l'administration sociale de ce qu'on avait fait pour des gens qui en avaient incontestablement besoin. Il n'a été trouvé qu'une seule bonne solution. C'était, ayant rédigé un premier rapport pour l'Assemblée générale, en présence des intéressés, en évitant des termes qui ne pouvaient que les choquer, notamment le terme de handicap, mais il a bien fallu réécrire ce rapport pour la DAS en étant extrêmement précis et explicite. Je crois que c'est à cette espèce de gymnastique difficile qu'on est confronté, et je crois que ce sont les qualités de cœur et de délicatesse qui permettent de trouver la solution la plus appropriée dans chaque cas.
Ah, tu nous mets la barre haut, là.
Là où j'étais, c'était des médecins qui avaient proposé cette appellation, parce que je vous entends, monsieur, dire que le mot handicap vous choque personnellement, vous ne voulez pas accepter cette idée-là, ce que je comprends. C'était des médecins qui avaient proposé cette formule-là, je ne sais pas, je vais vous la donner. On parlait de personnes vivant avec un handicap ou porteuses d'un handicap. Alors, en situation de handicap, moi je ne sais pas, étant proche d'une personne qui est reconnue dans les dossiers comme handicapée, je ne sais pas comment vous ressentez cette expression-là. Est-ce que ça met une distance entre vous et le handicap? Est-ce que c'est quelque chose de moins intérieur? Est-ce que ça se situe plus sur un plan de paperasserie, quoi, pour des choses, des droits à obtenir, des revendications à faire? Est-ce que l'appellation, tu avais dit, Étienne?
Je pense que l'appellation en situation de handicap, c'est-à-dire que...
C'est l'appellation officielle, celle-là.
Oui, c'est-à-dire que c'est une situation parmi tant d'autres. Je veux dire, la personne est avant tout un homme ou une femme qui aime faire des choses et qui, en plus de ça, comme caractéristique, mais c'est une de ses caractéristiques, elle est en situation de handicap. Si on dit un handicapé, bon, c'est un handicapé, point final. Je veux dire, c'est avant d'être une personne qui aime le sport ou qui aime autre chose ou qui a fait des études de telle ou telle chose, si on dit handicapé, c'est handicapé, point final.
Quand tu dis en situation, c'est quelque chose qui est évolutif, en fait.
C'est évolutif et puis c'est pas uniquement sa seule caractéristique.
Puis je pense que c'est peut-être aussi une facilité. On a un trouble psychique, il est handicapé. Point. On ne cherche pas trop. Je pense que
oui, c'est ça,
la société actuelle ne cherche pas. Il a un trouble psychique, il est handicapé. Alors que moi, j'ai eu une leucémie, j'ai été reconnue travailleur handicapé.
Mmh. Oui. En ce moment, c'est le handisport olympique. Et on voit des personnes handicapées physiques, c'est-à-dire un handicap évident, et qui font des choses que nous ne faisons pas nous-mêmes. Donc, effectivement, ce que tu dis, donc, effectivement, il faudrait fortement nuancer le terme de handicap. Mais il se trouve que le pouvoir a reconnu le handicap psychique et donne des compensations. Mais si, dans nos dossiers, les dossiers que je fais chaque année auprès de la DDCS, maintenant, etc., si on ne met pas le mot handicap, on n'a rien. Donc, il y a ce dilemme, c'est vrai. Mais il faudrait que vous, adhérents, vous nous aidiez à trouver une définition nouvelle, peut-être.
Oui.
Il arrive un moment où une patiente de moi dit qu'il est handicapé. Moi, j'ai une fille qui a vécu, qui a 47 ans maintenant, qui est malade depuis l'âge de 23 ans et qui a toujours s'est battue pour être sans milieu ordinaire. Elle était esthéticienne, elle a fait tout et n'importe quoi. Elle est partie vivre à Paris, ça a été très difficile pour elle. Et il y a 2 ans, 3 ans maintenant, elle a eu un contrat à venir pour s'occuper d'enfants dans une école. Et la directrice lui a dit, il faut que tu fasses une équivalence pour retourner à l'école, pas à l'école, en fac, pour faire, parce qu'elle est douée pour le dessin. Mais il faut vivre quand même. Alors là, elle est allée à la MDPH.
et elle a demandé une pension, une allocation d'adulte handicapé. Ça lui a permis, ça lui permet de retourner à l'école, comme elle dit, pour un diplôme, peut-être qu'elle n'aura pas, mais ça concrétise ses rêves. Et quand on a 45 ans, 50, bientôt 50, eh bien, de pouvoir réaliser ses rêves, même avec ce handicap, c'est déjà beau. Et elle, elle a fait le deuil de plein de choses. Elle a 46 ans, 47 ans, elle sait, elle n'a pas de famille, elle n'aura jamais d'enfant, elle me voit vieillir, elle a un frère et une sœur qui s'occupent plus ou moins, peut-être moins d'elle maintenant, qu'ils l'ont, parce qu'il y a saturation chez le frère et la sœur aussi. Et la chance pour moi, c'est d'avoir fait une thérapie familiale avec elle et son père à l'époque, puisqu'il vivait, son frère et sa sœur aussi. Et je ne sais pas si elle, ça l'a aidée, mais moi, ça m'a aidée. Ça m'a aidée de la laisser partir et de vivre à Paris toutes les difficultés de précarité qu'on peut vivre. Et puis, alors, pour ça, elle est allée justement, on parle du GEM. J'avais vu dans l'UNAF, dans le journal, une publicité, enfin un article sur le GEM à Paris dans le 17e. Elle y est allée, et elle m'a dit, quand je suis arrivée, elle dit, c'est méchant ce que je vais dire, mais j'ai eu l'impression de régresser. Elle dit, moi, je me suis battue pour ne être en milieu ordinaire, et je ne peux pas aller là, parce que, elle dit, il me donne beaucoup, c'était très intéressant, mais elle dit non, parce que j'ai l'impression que je vais retomber dans la maladie. Alors, donc, c'est le handicap, elle le voit, pour l'instant, quand ça démarche, c'était de pouvoir faire des études d'art plastique à la faculté à Paris. Alors, ça peut être ça aussi. Je ne dis pas que c'est merveilleux, mais pour elle, c'est bien. Mais pour moi, c'est difficile.
Oui, je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qui a été dit les précédentes interventions. On parlait tout à l'heure de banaliser la maladie psychique. Est-ce que du coup, il faudrait-il pas non plus aussi parvenir à banaliser le handicap aussi? Parce que c'est une notion qui me semble encore assez difficile à appréhender pour tout le monde. Et c'est un terme qui a beaucoup évolué. Vous évoquiez tout à l'heure en introduction la loi de 2005. C'est un terme qui a beaucoup évolué. Pour aussi en avoir discuté avec des personnes concernées, des personnes handicapées motrices ou des personnes handicapées mentales, et là je fais bien la distinction des personnes qui ont une déficience intellectuelle, je pense que c'est aussi, je pense, le handicap, une notion qui mérite qu'on banalise en discutant à la fois entre proches, entre professionnels, entre personnes concernées aussi. Mais il me semble, de mon point de vue, que c'est là aussi, il y a un éclairage à faire sur ce terme de handicap qui est, je pense, d'autant stigmatisant qu'on ne le définit pas ou qu'on ne le définit mal. Et je pense que la stigmatisation diminue justement quand on en a un meilleur éclairage justement et une meilleure connaissance. Voilà, donc moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas aussi en parallèle de banaliser la maladie psychique, est-ce qu'il ne faudrait pas en parallèle banaliser le handicap? Voilà.
Ben, je sais pas, moi je suis réticent parce que moi j'ai de la peine à trouver ça banal.
Je ne sais pas si le terme banalisé est bien, mais en tout cas...
Je crois que dans ce que vous avez dit, moi j'entends pas forcément banaliser, mais définir. Parce que finalement, chaque maladie grave risque de provoquer, enfin provoque le handicap, un type de handicap particulier. Alors, moi, je suis d'accord aussi avec ce que tu dis, tu ne trouves pas ça banal, mais justement, il faut le définir. Ce n'est pas forcément le banaliser, mais le définir pour déstigmatiser. Chaque maladie provoque des handicaps très spécifiques et qui peuvent être définis, qui peuvent avoir un éclairage particulier. Et la définition, justement, permettra mieux, donnera du sens quand on fera des revendications pour tel ou tel type de handicap, que ce soit une maladie de quelque ordre que ce soit. Est-ce que, je ne sais pas, c'était clair?
Le, banaliser ou le montrer, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je vois David dans le quartier où on habite. Les gens se garent souvent n'importe où, comme partout ailleurs dans Poitiers d'ailleurs. Et je sais qu'il a des problèmes avec les, il a des problèmes avec les endroits étroits. Alors, avec les voisins, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile de dire, bon, ben, pour qu'il passe en vélo, il lui faut 1,50 m ou 2 m de large. Alors, j'y vais, il me dit, j'y vais, je dis, bon, il va passer, il lui faut de la place parce que il est angoissé par les endroits étroits, il a des troubles qui font qu'il peut pas passer. Ou, donc, je veux dire, le handicap, là, il faut bien que je le montre, que je le dise, que je dise aux voisins, faites attention, il est handicapé. Et c'est pas toujours évident parce que, mais il a la place de passer. Ou donc quand il voit quelqu'un qui, si je dis il y a un handicapé qui, je dis il y a un handicapé qui va passer, il faut laisser de la place. Et puis qu'est-ce qui arrive? David en vélo. Alors, alors bon. Et c'est vrai que bon, c'est. Pas toujours, c'est pas toujours évident bon, de dire aux gens ça. Lui, David se considère comme handicapé. Et quand il vient avec nous, Oui, oui, mais il me le répète souvent parce que moi je suis un peu dans le déni, donc je lui demande des fois trop de choses. Et il me répète, quand il va pas bien, il me dit je suis handicapé, faut que tu fasses dégager ces voitures. Les gens se garent n'importe où sur le trottoir. Il a pris des photos de toutes les voitures qui étaient sur les trottoirs du centre-ville de Poitiers. Et il s'associe également aux handicapés physiques parce qu'il avait une tante ou une cousine, je sais pas exactement, qu'il aimait bien, qui était handicapée physique. Et donc, ça lui pose une difficulté pour lui et globalement. Et c'est vrai que moi, je suis un peu bon, il m'a converti ou je ne sais pas, mais l'autre jour, donc, il a été voté et le bureau de vote n'était pas accessible. Ils avaient fait une imbécilité impossible, c'est-à-dire qu'ils avaient mis une pancarte devant une grille fermée. Bon, personne handicapée, faites ouvrir cette grille. Mais il n'y avait ni sonnette, ni... Donc, pour ouvrir les deux barreaux, alors j'étais dans le bureau, et puis c'est moi qui ai gueulé à la place de David, parce que lui, il ne l'aurait pas fait, en disant, mais comment ça se fait, cette grille? Mais c'est vrai que moi, de temps en temps, à force d'entendre les gens sont mal garés, j'ai fini par devenir agressif, et ça m'est arrivé d'agresser quelqu'un qui passait devant moi, qui était pas j'étais en vélo, il passe devant moi à pied, le passage piéton était à 5-6 mètres, et puis il passait pas sur le passage piéton, et je l'ai engueulé, je l'ai traité de délinquant, parce que donc de temps en temps, j'ai tendance à déraper moi aussi dans ce sens-là. Mais pour faire comprendre, bon, ça y est, je vais me répéter, j'ai tendance à me répéter, il faut que je m'arrête. Ça.
Mais
David n'est pas handicapé dans l'humour, pourquoi? Ah oui.
Juste pour dire qu'à mon avis, là encore, par rapport à la notion de handicap, il faut distinguer le vécu du droit. Et si je prends l'exemple personnel de mon fils qui évolue en milieu ordinaire, il n'empêche qu'il est en train de faire un dossier pour être reconnu handicapé. Et lui, il l'exprime comme voyant là-dedans un système sécurisant et protecteur. Donc la notion de handicap, lui, là, à son niveau individuel, il la met pas sur la place publique. Et il se sent pas forcément dans son vécu au quotidien comme handicapé, il ne veut pas se reconnaître au travers du terme de handicapé, mais en termes de droit, ça lui ouvre un statut qui vit comme étant une protection éventuelle par rapport à des problèmes qui peuvent survenir. Quoi.
Bah, et notamment la protection juridique, c'est tout ça aussi. Hein. Parce que il viendrait à personne l'idée de dire à un gars qui vient de se faire opérer de multiples fractures, enfourche ton vélo et puis va faire le tour de France. C'est un peu ce qu'on demande à la sortie de l'hôpital. C'est, retrouve ton appart, assume tes responsabilités, fais tes achats, organise tes repas, fais ton ménage, etc. Quoi. Donc, recourir là aussi à la notion de handicap, ça peut permettre d'éviter de faire des bêtises. Enfin, on a aussi des gens qui sont stabilisés pendant plusieurs années, qui, par exemple, à l'ESAT, travaillent correctement, prennent des responsabilités dans un atelier, et puis comme ils vont bien, même à l'ESAT, on leur charge trop la barque et on les amène à péter les épaulons parce que on n'a pas assez pris en compte leurs limites.
Ce que je voulais dire par là aussi, c'est que il faut sans doute effectivement en parler pour déstigmatiser, mais il existe aussi un niveau de confidentialité qui fait que, je veux dire, il faut aussi savoir ne pas en parler. Quoi.
Mais on peut, enfin, je pense que l'exigence, c'est de se poser la question, est-ce que c'est pour servir ou est-ce que c'est pour se dédouaner soi, enfin, qu'on en parle. Est-ce que c'est comme le débat qu'on a eu pendant longtemps avec les soignants où il fallait le secret médical et il fallait que personne d'autre que les médecins ne sache et ne soit autorisé à parler de la maladie psychique. Enfin, ça nous a amené effectivement à n'avoir aucune compensation, à n'avoir aucun service et à ce que les familles puissent même pas jouer leur rôle de soutien et d'aidant. Donc...
Alors, moi, je voudrais simplement faire la comparaison avec une autre maladie. Alors, ne prenons pas le cancer, parce que le cancer, maintenant, tout le monde, enfin, non, pas tout le monde, il y a encore des gens qui n'osent pas dire j'ai un cancer, mais disons, dans 80% des cas, ils le disent. Mais prenons. Oui, ce n'était pas le cas. Mais prenons le cas, si tu veux, du sida. Je crois que si tu veux, on ne veut pas parler de sa maladie parce qu'effectivement, il y a le regard de l'autre. Donc, le sida, les gens avaient le sida, les malheureux, ils étaient malades et en plus, on les pénalisait parce qu'ils ne pouvaient pas parler de leur maladie et si on en parlait, on les foutait à la porte ou on ne leur touchait plus la main parce qu'on avait peur d'être contaminé. C'est l'horreur parfaite. Hein. Voilà. Donc, est-ce que vous croyez que c'est normal qu'on oblige des gens à se cacher voilà, moi je comprends pas. Il faut arriver à dire bon, moi aujourd'hui je suis on va dire je suis pas malade, j'ai pas de déficience ni physique ni psychique, mais demain je peux en avoir une. Hein. Donc il faut que tous les hommes de la société, au moins en France, puisque c'est là qu'on peut faire quelque chose en tant que citoyen, et les mêmes chances, hein, les mêmes chances qu'on soit atteint de maladie du cancer, qu'on soit atteint de maladie du sida, tuberculeux ou maladie psychique. On est la personne est malade et ça peut arriver à tout le monde. Voilà.
Oui, mais
donc après, si tu veux, si on a les mêmes droits, alors on a aussi les mêmes devoirs, et après on n'a plus à avoir honte d'avoir le sida ou d'avoir une maladie psychique, que ce soit de la dépression ou de la schizophrénie. Voilà. Comment ? Mais il faudrait que la société les accepte, voilà.
Mais quand vous travaillez, enfin moi j'ai travaillé en tant qu'infirmière psy pendant 30 ans, quand on allait, on avait des patients qui ont travaillé, et quand ça n'allait pas, eh bien il fallait aller chez l'employeur et parler un petit peu avec des mots difficiles, des mots édulcorés même, sur de ce handicap. Et c'était pas facile, mais... La personne qui vous recevait,
elle comprenait, ou elle faisait semblant. Mais les collègues de travail, moi je me souviens particulièrement d'une jeune femme qui travaillait chez Leclerc à l'ensachage des petits pains, de la briocherie, et si, cela. Et quand elle n'était pas bien, eh bien, il y avait soit 4 petits pains, ou 12, ou pas du tout, ou elle s'asseyait par terre, si, cela. Elle expliquait ça aux autres collègues, alors qu'en d'autres temps, elle était très bien, elle était, en plus, elle était très jolie, enfin bref, elle avait tout. Mais les collègues ne l'acceptent pas. Et ça, c'est un problème. Alors, c'est un problème énorme.
Enfin, moi, je crois que là, effectivement, il faut expliquer, parce que sinon...
Oui, bien sûr. Enfin, mais après...
Moi, en tant que chef de service, j'ai eu à gérer le cas dans mes équipes.
Oui, mais vous aviez un pied dans chaque camp.
Ben oui.
Voilà,
c'est ça. Mais c'est parce que j'avais un pied dans chaque camp que j'ai pu expliquer aux uns ce qu'étaient les difficultés de la personne en souffrance et à l'autre là où étaient les limites à ne pas franchir si vous voulez pouvoir revenir dans le service. Ben. Et donc... C'est bien en employant les vrais mots de la vraie souffrance que ça a été tolérable par les collègues, parce qu'il n'y a pas de raison non plus de se faire injurier par un collègue ou d'avoir une menace physique ou de faire le travail de l'autre, effectivement. Mais si c'est expliqué comme étant la manifestation d'une maladie et que l'intéressé entreprend des soins et qu'il s'engage à et qu'on voit et que... Peut-être que la décision après, ce sera le maintien dans le service si ça se passe bien. Et peut-être que ce ne sera pas le maintien dans le service si ça ne se passe pas bien. On donne aussi une perspective. Enfin, je pense que c'est ce dont parlera Patrick Gentil demain. Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il ne dit pas pour faire accepter les gens dont il s'occupe dans les entreprises et pour faire en sorte que l'entourage accompagne positivement et que ce ne soit pas stigmatisant.
Ben, parce que le chef de service, il n'est pas avec elle à travailler.
Oui, mais le chef de service doit le prendre en compte, cette réalité des collègues. Enfin.
Et c'est pour ça que moi, je suis partisan du mot handicap. En expliquant les phases de ce handicap. Parce que je vois avec ma fille, mais j'ai vu aussi dans mon travail, les patients disaient qu'ils étaient handicapés, qu'il y avait des moments où ils ne pouvaient pas. Par exemple, dans une réunion où il y avait 3 personnes qui parlaient, eh bien, eux ne pouvaient pas suivre. Parce que quand on a un traitement important, quand la réunion elle a lieu à 4 heures de l'après-midi et qu'ils sont au travail depuis le matin, et donc le mot handicap, enfin, moi je suis partisan pour l'employer. Et ma fille qui elle le dit aussi.
Est-ce qu'on a d'autres notions à aborder? Est-ce qu'on a des soignants
Je mets derrière le mot handicap parfois autre chose. C'est-à-dire que je connais quelqu'un qui voulait travailler au télécom, il y avait plein de fils de différentes couleurs, il n'a pas pu le faire parce qu'il était daltonien. C'était un handicap. Quelqu'un de lent, c'est un handicap, etc., etc. Le mot handicap s'emploie parfois comme ça.
Bah, c'est une réalité.
C'est une réalité, oui. Bon, les personnes ne vont pas être reconnues comme handicapées pour autant, mais je mets le mot handicap, je le décline un peu de cette façon-là. Et si on dit des troubles psychiques, c'est un handicap, avoir une phobie arachnophobe ou je ne sais pas trop quoi, c'est un handicap.
Agoraphobe, oui.
Agoraphobe, etc. Donc moi, je dis plutôt il est... claustrophobe, agoraphobe pour les passages avec les voitures, et etc. Et bon, c'est vrai que la peur de la foule, c'est un peu particulier, parce que David a peur dans la foule, enfin, est angoissé par la foule quand elle ne marche pas tout dans le même sens. Si bien que s'il y a une manif, tout le monde marche dans le même sens, il peut aller à une manif. Donc ça donne des fois des trucs un peu bizarres. L'handicap psychique... peut donner des choses particulières, des moments où il va faire des choses que d'autres moments il ne va pas être capable de faire. Je suis hors sujet.
Non, non. Est-ce qu'il y a des questions là, dans le public qui nous a rejoint ce soir?
C'est le travail à mi-temps. Parce que notre fils, tant qu'il a travaillé, il a eu un travail par la Cotorep dans les Deux-Sèvres, tant qu'il a travaillé, il se sentait... fatigué le soir, on l'appelait protégé.
Il était fatigué le soir, mais il tenait. Et puis, depuis qu'il a été licencié économique, parce qu'il était le dernier arrivé dans l'entreprise, depuis qu'il est sans travail, et sa maladie s'aggrave. Et alors, on se disait... J'entendais des gens qui disaient qu'ils ne sont pas aptes à travailler, mais lui, je crois qu'il serait mieux à travailler un petit travail, même si ça ne correspond pas à ses études. Qu'est-ce que ça peut faire si, il aurait l'esprit occupé. Et là, il en a fait le deuil des grandes études qu'il aurait voulu faire, mais il l'a déjà fait depuis longtemps. Et il aimerait trouver un travail à mi-temps.
Mais je pense qu'en parler, justement, c'est essayer de trouver le bon niveau. J'évoquais tout à l'heure, y compris des échecs en ESAT de gens qui étaient bien depuis de longues années. C'est aussi parce que peut-être que les encadrants n'ont pas su en parler ou entendre l'angoisse qu'il y avait aussi à avoir plus de responsabilités. Donc, en parler, c'est ne pas se gourer sur le niveau d'activité qu'on peut avoir, professionnel, en milieu ordinaire, à plein temps, en salle, dans la restauration, par exemple, à plein tube, ou en milieu ordinaire préparé, un peu plus tranquille, ou à temps partiel, ou en milieu protégé, ou des activités associatives. Il y a aussi plusieurs...
que ce soit ça, c'est pas une histoire de ne pas en parler, c'est que s'il y a une des difficultés économiques comme il y a maintenant, ils sont les premiers à en faire les frais. C'est ça, vous parliez bien de licenciement économique pour votre fils parce qu'il était le dernier arrivé. Alors quand ils sont déjà pas insérés, c'est pas forcément évident. Enfin, je crois que c'est ça.
Il a travaillé longtemps à 90% du SMIC, et puis le jour où la loi est passée, ben il a été licencié parce qu'il aurait fallu le payer plus cher.
Oui, mais je dirais que soit on peut entre guillemets prétendre au milieu ordinaire, soit on ne peut pas. Et à ce moment-là, il vaut mieux envisager éventuellement d'autres choses aussi. Enfin, moi, je ne vais pas me faire le défenseur de l'économie de marché et de la compétition à tout craint, mais c'est les données qui sont devant nous. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Oui, je voulais quand même juste revenir un petit peu sur ce fameux mot handicap. C'est vrai que quand même j'ai terminé mes 15 années de carrière en tant que travailleur handicapé. Alors c'est peut-être pour ça que maintenant j'ai du mal à accepter, c'est tout. Je veux pas en dire plus.
Alors je vais peut-être finir en vous lisant la définition de stigmatisation. Donc, réaction d'un groupe ou d'une société envers des personnes ou des groupes minoritaires, différents ou défavorisés, consistant à attribuer une étiquette qui les catégorise comme déviants. La stigmatisation peut être provoquée dans un but politique ou par des sentiments de gêne et de ressentiment. Les personnes stigmatisées peuvent ressentir des sentiments de vulnérabilité, de honte ou devenir agressives. La stigmatisation est utilisée souvent pour détourner l'attention publique de certains problèmes en désignant les personnes stigmatisées comme responsables de ces problèmes. Mais elle peut aussi être utilisée pour obtenir l'adhésion du public contre un groupe gênant. Voilà. Donc, je vous remercie d'être venu à notre rencontre. Je vous redis que vous pouvez consulter le programme du Dietrich. Il y a des choses très intéressantes et justement, les films de mercredi soir en présence du réalisateur Jean-Michel Carré. Qui est un des grands du documentaire et de la rencontre des gens en difficulté. Donc mercredi soir, et puis la visite du fil d'Ariane, et puis demain soir, donc Patrick Gentil, l'insertion professionnelle. Et vous pouvez retrouver des renseignements sur l'UNAFAM sur le site unafam86.free.fr, etc. Où vous tapez UNAFAM et vous redégoulinez facilement vers notre site.